Bollard, c'est très particulier. C'est quasi religieux, en fait. Pour moi, ça ressemble un peu, c'est comme quand vos grands-parents vous emmenaient à l'église pour ceux qui allaient, ou au PMU pour d'autres. C'était un peu l'expérience du dimanche, en fait.
C'est notre Louvre à nous, quoi. Le Stade Bollard, c'est un temple.
Bienvenue dans Archi Intéressant, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Dans cette saison 3, suivez-nous à la découverte des lieux les plus connus du sport, les stades, pour comprendre comment ces infrastructures, par leur histoire, leur architecture et leurs fonctions, se sont imposées dans le paysage français. Dans cet épisode, direction Lens et le Stade Bollard avec la journaliste Marjolaine Corr.
Deux hymnes pour ouvrir ce récit. Le premier que vous avez entendu, c'est le chant des corons de Pierre Bachelet qui raconte la vie des mineurs de fond. Ça, c'est l'hymne officieux du club depuis une vingtaine d'années. Et le second que vous venez d'entendre, c'est la lensoise, une variante de la marseillaise, sauce locale et hymne officiel du RC Lens. Construit en 1932 par l'ingénieur en chef des travaux de la Compagnie des Mines de Lens, Bollard est un stade dit « à l'anglaise » avec quatre tribunes indépendantes qui encerclent la pelouse et quatre angles vides. Bienvenue dans le Nord où à chaque instant, l'histoire de la création du stade se rappelle aux souvenirs de ceux qui l'évoquent. À l'image de Muriel, tenancière du bar et de l'association Chez Muriel, pilier depuis plus de 40 ans face au stade.
Bah moi depuis 63 je vais à Bollard, donc je suis tombée dans la marmite en étant petite, j'étais avec mon papa qui était mineur de fond, mon grand-père, mes oncles, donc les dimanches après-midi c'était la sortie hebdomadaire, ils allaient au Tiercé, on mangeait chez papy et mamie et après c'était le football, ça a toujours été notre vie quoi, puis on continue parce qu'on pense à nos ancêtres, les mineurs, puis je pense qu'on a inculqué ça à nos jeunes et puis ça continue quoi.
Ça continue même auprès des footballeurs du RC Lens. L'ancien président du club, Gervais Martel, avait instauré une rencontre entre les mineurs et les joueurs pour que ces derniers sachent pour qui ils se démènent sur le terrain. Arnaud Pouille, le dirigeant actuel, a maintenu cette tradition.
Heureusement, il reste encore quelques personnes qui sont descendues au fond, mais il y en a de moins en moins aussi. Ça fait partie du rite d'intégration des joueurs et on le fait avec ceux qui ont connu cette expérience-là et qui peuvent l'expliquer aux joueurs. On a une équipe qui porte les valeurs du club et qui les porte bien, mais qui est assez peu issue pour l'instant de la formation et donc qui n'a pas été toujours éduquée à l'ADN du RC Lens. Donc notre job, c'est vraiment de leur apprendre assez vite et très vite où ils mettent les pieds, parce que les supporters sont d'une sensibilité très forte par rapport à ça.
Des supporters qui aujourd'hui n'ont pas connu les mines, mais dont la tradition du stade reste très ancrée et continue de se transmettre de père en fils et fille, comme le fait Jérémy depuis 25 ans qu'il fréquente le stade Bollard.
C'est la tradition familiale parce que mon père était supporter de Lens et dès que j'ai eu l'âge de venir, il m'a emmené. Je suis devenu accro.
Et est-ce qu'il y a des rituels quand on commence à emmener ses enfants ?
Oui, on regarde les matchs tous ensemble quand on est petit et puis parfois, maintenant qu'on est plus grand, on se retrouve parfois autour de la télé ou alors on vient en match ensemble. Mon fils est là, il a 11 ans, donc ça y est, c'est parti, on l'emmène.
Tu t'appelles comment ?
Noé.
Et alors, ça t'a fait quelle impression la première fois que t'es venu assister à un match ?
C'était cool.
Est-ce que c'est impressionnant un tel stade ?
Oui, c'était très grand et impressionnant.
Et toi ? Est-ce que tu chantes, toi ?
Oui. Il m'apprend, mon père.
Ça aussi, c'est une transmission d'apprendre les chants ?
Ouais, c'est vrai que parfois à la maison, on chante et ma fille qui a 14 ans, elle est encore plus la fibre que lui. Et elle connaît encore mieux les chansons. Et au fur et à mesure des années, ils apprennent les nouvelles chansons.
Le stade est donc devenu un élément central dans la vie des Lensois et c'est une conséquence des choix adoptés lors de sa création par ses fondateurs. J'ai appelé Marion Fontaine, professeure au Centre d'histoire de Sciences Po, dont les recherches portent sur l'histoire des mondes miniers, pour qu'elle nous raconte comment est né le stade Bollard.
Félix Bollaert, c'est un stade qui est construit en 1933-34, dont on a pu dire qu'il obéissait également à des considérations pratiques. On est en pleine crise économique et c'était aussi un moyen d'occuper un certain nombre de travailleurs des mines sans les licencier immédiatement. Mais ce qui est important surtout dans ce stade, c'est qu'il a deux fonctions dont il est pas très clair au départ de savoir laquelle va l'emporter. Une fonction de pratique sportive, c'est-à-dire qu'il doit servir aux différentes sociétés sportives de gymnastique, de basket, etc., patronnées par la compagnie minière pour évoluer directement dans le stade. Mais il est doté également des tribunes, au moins d'une tribune, et il peut être conçu pour le spectacle sportif. Et là, c'est plus innovant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de stades à l'époque dans le bassin minier qui sont construits avec une vidée du spectacle. Et il n'est pas impossible qu'en le construisant, la compagnie minière est déjà en tête. Le club sur lequel elle va établir sa mainmise un an plus tard, en 34, c'est-à-dire le Racing Club de Lens.
Et des décennies plus tard, en 2024, avec ses quatre tribunes pleines à craquer, la vocation de spectacle reste bel et bien présente. Un spectacle populaire et une particularité à Lens, le club connaît la plus grande concentration d'associations de supporters. Un phénomène qui s'explique là encore par son histoire, nous explique Arnaud Goubel, référent supporter du Racing Club de Lens.
On a une formule un peu particulière parce qu'on a 52 associations de supporters ici à Lens officiellement reconnues par le club. On en a d'autres qui sont aussi pas reconnues. C'est particulier parce que personne en France n'a ça. Je pense qu'en dessous de nous, ça doit être Lyon qui doit avoir 12 ou 16 associations recensées. Mais on a un côté assez historique dans cette création des associations parce que d'ici 2 ans, on va fêter le centenaire du supporterisme à Lens. Donc on a 100 ans de supporterisme à Lens, de création de supporterisme à Lens, donc des formules diverses. Mais on avait cette particularité ici d'avoir notamment dans le bassin minier, chaque fosse avait sa section de supporters dédiée qui se retrouvait dans un café. C'était le café de chaque fosse qui rassemblait une association de supporters. Et du coup, on avait eu cette habitude d'avoir énormément d'associations qui se sont créées dans ces cafés, qui étaient un lieu de rassemblement, de lien social. Et cette formule, en dehors ici du bassin minier, s'est étalée sur toute la région Nord-Pas-de-Calais.
Arnaud Goubel est lui-même un ancien supporter et depuis des années, il occupe ce poste spécifique de référent supporter du club qui consiste à faire le lien entre les associations, le club et les autorités.
Il y a un vrai rôle de coordination parce qu'aujourd'hui, on a 3 tribunes populaires ici à Lens, ce qui est aussi une particularité. On est le seul club en France à avoir 3 tribunes debout. Ça représente 12 000 places. Donc c'est quasiment un tiers du stade qui est considéré en tribune populaire ici, donc sur des places pas chères et debout, sur lesquelles on axe l'ambiance en priorité. Mais il faut réussir à coordonner ces 3 tribunes, parce que quand ça part d'un côté, il faut réussir à ce que ça reprenne un peu dans tous les sens. Donc on a une tribune historique, qui est la tribune Tony Marek, qui depuis 50 ans est à cette place et propose l'ambiance à Bollaert. On a aujourd'hui maintenant des tribunes très fortes en Delacour et en Trainin sur les niveaux 0 qui essayent de reprendre un peu cette ambiance de la Maraïque, les mêmes codes aussi, et reprendre les chants ensemble. Donc il y a un vrai travail de coordination déjà entre ces assos en termes d'ambiance ici à Lens, puis après d'organisation générale pour les déplacements, pour des actions supporters, pour des projets supporters, sachant que dans notre particularité de 52 associations, on va retrouver des associations plus dans la culture ultra, donc avec un modèle très spécifique. On va retrouver des associations beaucoup plus traditionnelles qui se sont créées il y a 30 ou 40 ans, qui sont dans une autre formule. Et puis des associations de moins de 10 ans qui sont sur une autre formule encore aujourd'hui.
Différents types d'associations qui ont évolué avec le temps et la vie du club. Et surtout, l'apparition il y a une quarantaine d'années des ultras, ces supporters fortement impliqués dans la vie du club. Pierre Révillon est l'un des responsables des Red Tigers, un groupe créé en 1994 qui compte environ 800 membres aujourd'hui. Ils donnent à leur rôle une fonction bien précise.
On se considère un peu comme des syndicalistes, c'est-à-dire qu'on voilà, pour préserver certaines valeurs, dès qu'il faut critiquer ou même échanger avec le club de manière constructive, on va le faire. On ne va pas hésiter à monter au créneau quand on n'est pas d'accord sur certains sujets.
Mais ce rôle pour les membres va plus loin que le suivi de l'équipe de foot et même bien au-delà de l'enceinte du stade.
Aujourd'hui, nous les Red Tigers, on est supporters du Racing Club de Lens, mais on se considère également comme un acteur social de la ville. C'est-à-dire qu'on va faire des actions sociales pour les enfants, pour des catastrophes par exemple qui ont pu avoir lieu. Notamment, on a fait des catastrophes de courrières par exemple, où il y a eu des mineurs qui sont décédés. On a déjà vendu des t-shirts pour les distribué à une association. Pendant le Covid, on a fait des collectes. Pour les salariés de Metal Europe, une industrie qui a fermé sur le secteur, on a décidé pareil de vendre un t-shirt pour ensuite redonner les bénéfices aux familles des salariés. Donc voilà, on se considère comme un acteur social au niveau de la ville et plus généralement au niveau du bassin minier.
Un lien indéfectible entre les supporters, l'équipe et le stade, c'est tout un écosystème qui gravite autour de Bollaert. Au point de faire réfléchir le directeur du club, Arnaud Pouille, au rachat du stade par le RC Lens, une opération qui ne se fait quasiment jamais en France.
C'est assez rare en fait, parce qu'il faut aussi que le club, enfin j'ai envie de dire, soit légitime. On a une culture qui n'est pas du tout anglo-saxonne, hein, qui est très publique au niveau des enceintes sportives en France. Et donc il y en a quelques-uns qui ont essayé, mais peu qui ont réussi. Les stades et les clubs sont des vrais, je pense, des vrais monuments. C'est des derniers endroits un peu sociaux dans les villes, notamment quand ils sont en centre-ville comme nous. Et ça a du sens quand même qu'ils soient plutôt dans le patrimoine d'un club plutôt que dans celle d'une collectivité où il y a aussi beaucoup de mouvances et d'évolutions parfois et qui peuvent rendre instable son exploitation.
Et dans la continuité de cette réflexion, une autre vient s'ajouter, celle de la place des supporters dans l'actionnariat du club pour leur donner une place officielle au sein de l'organisation.
Pour nous, l'acquisition du stade, elle doit être concomitante à l'entrée des supporters dans le capital du club. Donc on y travaille. Nous non plus, on n'aime pas, mais eux n'aiment pas les termes sociaux parce que ça fait très espagnol. Ils n'aiment pas actionnariat populaire parce qu'ils trouvent que ça fait un peu trop populaire. Donc on réfléchit à leur forme d'entrée, qui on ne sait pas quelle dénomination elle aura, mais en tout cas, ouais, ça avance. Et moi, ce qui m'étonne pas, mais ce qui peut être troublant pour le grand public, c'est qu'ils ont une vraie vue pragmatique et économique de la chose.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils... On peut leur parler de valorisation de club, valorisation de stade et de valorisation de participation, etc. Ça leur fait pas peur. Ils savent ce que ça représente et de droits associés. Ils veulent absolument avoir un certain nombre de droits. Quelque part, c'est une vraie négo entre deux blocs d'un écosystème qui a pour point commun l'amour du club et son ambition, mais qui défend aussi un peu ses intérêts de part et d'autre.
Un stade, une histoire, une transmission, un rôle social fort au cœur de la ville. Bollaert contribue pleinement à construire l'identité locale, et ce, à travers les époques qu'il traverse, comme le détaille la chercheuse Marion Fontaine.
Dans le cadre d'une ville où le passé minier devient de plus en plus ténu, d'une ville qui accueille de nouveaux habitants, le stade reste un élément de centralité. C'est-à-dire qu'en effet, il est occupé tous les 15 jours et il suscite une certaine effervescence. En même temps, il est un élément de continuité. C'est-à-dire que c'est une ville qui a été rasée au sol à la fin de la Première Guerre mondiale, donc une ville qui n'a plus rien antérieure aux années 20. Donc qui a d'abord subi cette première discontinuité et qui a subi cette deuxième discontinuité à la fin des années 60-70, qui est celle de sa rupture avec un passé minier qu'il avait quand même marqué pendant 150 ans. Le stade fait partie des rares éléments dans cette ville qui incarne une certaine continuité. Alors un patrimoine, je ne sais pas, mais qui permet effectivement à la fois de nouer des choses qui sont au présent, au futur, la situation du spectacle sportif, et en même temps de s'inscrire un petit peu dans un passé, certes récent, mais dans un passé quand même.
Autrefois situé à la lisière entre les propriétés de la Compagnie des Mines et la ville, le stade Bollaert, qui a été rénové à l'occasion de l'Euro 2016, arbore aujourd'hui une enveloppe blanche épurée, en écho à l'architecture du Louvre-Lens voisin, deux symboles qui, par leur présence au cœur de la ville, donnent les clés de ce qui forge l'identité des Lensois.
Vous avez écouté Archi Intéressant, un podcast du Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, réalisé par Marjolaine Corr, suivi éditorial Josepha Lopez et Emmanuel David-Ancor.